6h, 8h,
Matin Première.
Il est 7h48, notre invité est membre du groupe de pilotage du Parlement européen sur le Brexit. Quelles sont les conséquences de cette impasse pour nous en Belgique? Se rapproche-t-on du scénario du no deal? On en parle avec le coprésident des Verts au Parlement européen, Thomas Galisseux.
Bonjour Philippe Lamberts.
Bonjour.
Sommet européen donc aujourd'hui pour acter l'échec des négociations sur le Brexit. À quoi joue-t-on là-bas dans les arcanes du Parlement et de la Commission européenne?
Ah bah écoutez, on ne joue pas ici. On essaie de défendre l'intégrité du marché intérieur européen, qui est quand même un des piliers de base de l'Union européenne, et que le gouvernement britannique voudrait nous voir remettre en cause pour en fait résoudre les contradictions qui sont les leurs. Theresa May a affirmé qu'elle voulait retirer le Royaume-Uni du marché intérieur de l'Union douanière, et en même temps, elle nous dit qu'elle veut respecter l'accord du vendredi 5 qui a mis fin à la guerre civile en Irlande, c'est-à-dire pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, et en même temps, elle ne veut pas de frontière sur l'île d'Irlande. En fait, c'est une contradiction insoluble, à moins évidemment pour l'Union européenne, d'accepter finalement de démonter son marché intérieur. Et ça, nous ne sommes pas prêts à le faire.
Donc c'est le beurre, l'argent du beurre et le sourire de Theresa May.
Exactement, exactement. Et donc cette contradiction-là est présente depuis le début de la négociation. Le gouvernement britannique a essayé de faire semblant que ça n'existait pas ou de blâmer l'Union européenne pour son inflexibilité. Mais à la fin des fins, il va falloir, au sein du gouvernement britannique et de la Chambre des communes, suffisamment de courage politique pour accepter de revenir en arrière sur certaines exigences, notamment le fait de sortir le Royaume-Uni de l'union douanière et peut-être même du marché intérieur. Donc peut-être que finalement, la solution consistera à maintenir le Royaume-Uni dans l'union douanière et de trouver alors des contrôles réglementaires en mer d'Irlande et les faire donc digérer aux unionistes irlandais. Ça va pas être facile.
Alors il doit normalement y avoir un sommet Brexit mi-novembre, c'est pour ça qu'ils discutent en ce moment, pour préparer ce sommet, faute de quoi il ne restera plus assez de temps en gros pour mettre en place le Brexit prévu pour le printemps. On se dirige du coup vers un no deal, en fait, ou pas? Un scénario où il n'y aura pas d'accord?
Je pense que depuis le sommet de Salzbourg, la probabilité du no deal a augmenté. Autrement dit, il se pourrait que pour des raisons de lutte de pouvoir interne au Royaume-Uni, à la fois au Parti conservateur, mais aussi au Parti travailliste, il ne soit pas possible de trouver une majorité à la Chambre des communes pour un accord négocié. Et en absence d'accord négocié, c'est une sortie non négociée, c'est-à-dire une sortie brutale qui fera des dégâts, bien sûr, majeurs au Royaume-Uni, mais ne le sous-estimons pas, de notre côté aussi. Tous les pays riverains du Royaume-Uni, à commencer par l'Irlande, mais aussi la France, le nord de la France, la Belgique, en particulier la Flandre, les Pays-Bas, le Danemark, etc., vont sentir la pilule du no deal. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse tout ce qui est possible pour trouver un deal, mais sans remettre en cause l'intégrité du marché intérieur.
Alors il y a le scénario radical no deal, pas d'accord, mais il y a aussi ce scénario où on va aller de report en report. Or c'est encore pire peut-être pour les milieux économiques si on retarde la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Alors c'est sûr que
ça va encore créer de l'incertitude.
Si vous êtes un acteur économique et que vous devez prendre des décisions d'investissement, l'incertitude est quelque chose que vous détestez. Et donc plus longtemps le Royaume-Uni ne sera pas clair sur ses intentions ultimes, plus la tentation sera grande pour les acteurs économiques qui veulent servir le marché européen d'aller s'installer ailleurs qu'au Royaume-Uni. On a déjà entendu des Japonais notamment, des fabricants d'automobiles, dire voilà, nous on va investir sur le continent, mais pas au Royaume-Uni parce que l'incertitude est trop grande. Donc quelque part cyniquement, et c'est le jeu que joue Emmanuel Macron, plus il y a d'incertitude, plus ça profite à des pays comme la France, comme la Belgique, comme d'autres.
Justement,
mais je pense
quel
pas
regard,
que c'est un jeu très sain.
Quel regard vous posez sur l'action? On a un Belge parmi les négociateurs pour le oui. Parlement européen, c'est Guy Verhofstadt. Il y a le français Michel Barnier. Il joue la carte européenne ou chacun joue sa carte perso?
Non, Michel Barnier joue clairement la carte européenne. En tout cas, il a absolument toute ma confiance. Et Guy Verhofstadt, qui dirige le groupe de contact Brexit du Parlement, est totalement aligné. Et là, je dois dire qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que Michel Barnier défend et la position des cinq groupes représentés au Brexit Steering Group du Parlement. Donc là-dessus, les choses tournent plutôt bien. Il y a une grande cohésion du camp des 27, tant du côté Parlement que du côté Conseil, mais nous jouerons une partie à haut risque. Alors, la prolongation de la période de transition est une chose inéluctable. Je veux dire, on ne va jamais négocier notre relation future en 21 mois. Donc, on savait dès le début que ces 21 mois, c'était un peu bullshit. Donc, on va devoir la prolonger, à mon avis, de plus que 12 mois. Mais ça n'enlève pas la nécessité absolue d'avoir des garanties, ce qu'on appelle le backstop, dans le traité de séparation, pas dans un traité futur. Au jour du Brexit, le traité qui aura été ratifié par le Parlement européen et par la Chambre des communes doit comprendre le filet de sécurité qui garantit qu'il n'y aura jamais de frontières physique avec des contrôles sur l'île d'Irlande.
Alors ces derniers jours, au Luxembourg, lors d'élections régionales allemandes en Bavière et chez nous en Belgique, les écologistes engrangent des succès. Alors c'est une vague verte ou c'est une vague de mécontentement qui dépasse du coup la Belgique ?
Oh mais écoutez, on dit souvent que quand on vote écolo, c'est un vote de mécontentement et c'est assez curieux. Quand on vote pour les partis mainstream, c'est toujours un vote d'adhésion. Ben non, je pense en fait qu'il y a de la part des partis traditionnels, socialistes, chrétiens-démocrates, libéraux, une désaffection. Autrement dit, ces partis qui sont le noyau dur des politiques mainstream qui ont été menées depuis 30 ans en Europe, ben, subissent aujourd'hui le contre-coup d'un refus, en fait, d'une partie croissante de la population. Et je pense que ce qui est en train de se passer, en tout cas c'est mon sentiment en travaillant le terrain, que c'est de plus en plus un vote d'adhésion à l'égard des Verts. Vous savez, si vous refusez le consensus de la mondialisation néolibérale, on voulait croire ces derniers mois que la seule alternative possible, c'était le vote sur le repli national populiste. Eh bien, je pense que ce que les élections de dimanche dernier ont montré, c'est qu'il y a une autre alternative qui, en fait, répond au moi-je de la mondialisation néolibérale, non pas par un nous exclusif, nous contre eux, proposé par la droite nationale populiste, mais par un nous inclusif. Ça va parler à la première personne du pluriel, c'est ce que nous faisons, nous les Verts, et en tenant en compte les réalités d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup réalisent que l'urgence écologique est là et qu'on ne peut plus dire, eh bien, on va changer le système à partir de demain.
Non, c'est aujourd'hui qu'on va commencer. Face à cette montée des populismes, des nationalismes et de l'extrême droite aussi, on a vu une voix sortir du bois, entre guillemets, Guy Verhofstadt, qu'on appelait à une plateforme des progressistes en Europe, rassemblant les différentes formations contre justement cette vague populiste. Là, vous dites, les Verts, en fait, on voudrait encore être une autre alternative.
Mais en fait, c'est la stratégie Macron qui consiste à bipolariser en disant ou bien vous êtes anti-européen, vous êtes national-populiste, ou bien vous êtes pro-européen et forcément, vous êtes dans mon camp. Sauf que Macron, autant que Verhofstadt, représente le mainstream politique, c'est-à-dire l'Europe doit être ce projet qui permet d'adapter notre continent à la mondialisation néolibérale. Ce que proposent Verhofstadt et Macron, c'est essentiellement on continue à faire la même chose en plus fort. Et ça, évidemment, nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette stratégie-là. Clairement, un système qui est construit sur l'exploitation de la planète et des gens au profit de quelques-uns, et du profit à court terme en plus de quelques-uns, n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir. Et c'est tout le sens de la démission de Nicolas Hulot il y a un mois. C'est continuer la mondialisation néolibérale en disant on va faire la transition écologique en plus, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux.
Philippe Lambert, justement, question de maturité par rapport à cette prise de pouvoir. Hein. On a vu écolo, à chaque participation, il y avait une sanction chez nous. D'où la question de cette radicalité. Jusqu'où on doit pousser la radicalité écologiste dans sa participation au gouvernement ?
Alors, la radicalité, le terme dit aller à la racine des choses. Et si on veut aller à la racine des problèmes à la fois écologiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés, clairement, il faut changer l'ADN du système de la mondialisation néolibérale qu'on connaît. Autrement dit, il faut changer de système. Il ne s'agit pas d'adapter à la marge le système. Il s'agit bien d'une transformation.
Mais auparavant, c'est ce qu'a fait Écolo.
Je pense que Écolo,
Jean-Michel Javot, co-président, contre qui vous avez souvent débattu en interne, accompagner le système.
Je pense qu'en effet, on a été pendant un temps dans une écologie d'accompagnement plutôt que dans une écologie de transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, Écolo a décidé de réhabiter sa maison, qui est celle d'une transformation systémique, mais, et c'est ça qui nous caractérise, c'est que, à la différence de certains, je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui parle de la planification écologique, on va renverser la table et l'État va guider la transition, nous disons, nous sommes des réformistes. Donc, nous sommes radicaux dans le projet et réformistes par la méthode. Autrement dit, on ne va pas réussir la transition, et d'ailleurs c'est une transition, c'est pas une révolution, c'est une transition, eh bien cette transition, c'est un effort qui exige de mobiliser toutes les capacités créatrices de la société. Et ça, vous ne le faites pas top-down en donnant des ordres à la société. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Mais concrètement, là, dans les communes, vous volez dans les bras du Parti Socialiste. C'est le retour de la convergence des gauches.
Ah bah écoutez, si moi je regarde la géographie des alliances qu'Écolo est en train de passer, d'ailleurs certains nous le reprochent, eh bien ce n'est pas systématiquement la même géographie. Autrement dit, il y a des endroits où nous allons en majorité avec le PS, il y a des endroits où nous allons en majorité avec le MR, avec le CDH. Écolo est un acteur adulte. Personne ne peut nous dicter les alliances que nous faisons. Qu'est-ce qui guide nos alliances ? C'est un, pourquoi faire ? Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est le programme. Maintenant, vous pouvez avoir un très très beau programme. Si vous ne pouvez pas faire confiance aux partenaires avec qui vous travaillez, et là c'est des questions aussi d'êtres humains, d'hommes et de femmes, si vous ne pouvez pas faire confiance, le meilleur programme ne sera pas appliqué. Et trois, nous avons besoin d'être indispensables dans les majorités.
Si je pose cette question, c'est parce qu'il y a aussi la montée de l'extrême-gauche, du PTB.
Bien sûr.
Donc à un moment donné, est-ce que vous pouvez vous réunir avec le Parti Socialiste et le PTB autour d'une convergence des gauches ?
Mais Il ne s'agit pas de convergence des gauches, il s'agit de savoir quel programme. Si à Molenbeek, Catherine Moureau nous appelle à discuter et d'être à la même table du PTB, nous n'avons pas d'exclusive sur le PTB, donc nous pouvons parfaitement discuter d'un programme. Il faut voir quelle sera la volonté des partenaires d'arriver à un programme réaliste et faisable pour la commune de Molenbeek.
Parce que vous connaissez cette situation de montée des populismes partout en Europe.
Tout à fait.
Est-ce que l'extrême gauche, à un moment donné, si on fait des accords avec l'extrême gauche, on donne du grain à moudre à ceux qui seraient prêts à faire des accords avec l'extrême droite.
Peut-être, je fais quand même une différence majeure entre l'extrême droite qui considère certains êtres humains comme n'ayant pas le droit de mener une vie digne, c'est ce que je disais, le nous contre eux, et eux, ça peut être n'importe qui, ça peut être l'immigré, ça peut être l'étranger, ça peut être le musulman, eh bien non, je ne pense pas que l'extrême gauche peut être classifiée au même endroit. Par contre, c'est très clair qu'on a une différence majeure avec une bonne partie de l'extrême gauche européenne qui est eurosceptique, qui est ouvertement pour une sortie de l'Union européenne. Ils disent sortie des traités, mais en français ça veut dire sortie de l'Union européenne, et avec ça nous ne serons jamais d'accord.
Merci Philippe Lambert. Je vous dévoile un peu les coulisses de cette émission de Matin Première. Matin Première, c'est une famille à laquelle vous appartenez, et chaque jour, nos invités comme vous, Philippe Lambert, sont accueillis par des hôtes et des hôtesses qui s'assurent que tout se passe au mieux. Et c'est bientôt un moment important, puisqu'un pilier de la RTBF va bientôt partir pour prendre du temps pour lui. Vous avez peut-être vu son sourire dimanche lors de la soirée électorale en TV. On n'a vu que lui. Merci à Marc Bachy pour sa bonne humeur et son professionnalisme. Et maintenant, on retrouve François Heureux.
Je m'associe à vos remerciements, Mehdi. Bonjour Mehdi, bonjour à toutes et tous. Un événement ce matin, un événement dont on va commémorer les 50 ans l'été prochain.
Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur. On a marché sur la Lune. Eh bien, Milou, tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Allez, vas-y, profite-en.
Voilà le premier pas de l'homme sur la Lune. Vous savez qu'il avait été annoncé par Hergé, hein, puisque la sortie de l'album On a marché sur la Lune, c'était 15 ans avant le premier pas de Neil Armstrong. Hier, c'était la sortie au cinéma de First Man. On va en profiter pour passer en revue les films qui mettent en scène la conquête spatiale. Ce sera dans un gros quart d'heure.